Bonsoir à tous. Les enfants de Cronos. On entend souvent que les littératures de l'imaginaire trouvent leur source dans les grands mythes fondateurs comme l'épopée de Gilgamesh, l'Iliade et l'Odyssée ou les textes des religions du livre. Une ascendance prestigieuse s'il en est. Et il faut admettre que de nombreux auteurs et autrices puisent leur inspiration, voire leur imaginaire, dans le mythe et le passé. Guy Gavrielke.
Excusez-moi de vous déranger tous. On a besoin d'un médecin en salle Chai, là où il y avait un documentaire.
Guy Gavrielke crée le mythe avant de s'emparer de l'histoire. La tapisserie de Finnevar, sa première trilogie, devient vite le centre spirituel du reste de son œuvre, et chacun de ses textes y fait allusion. Il commence en quelque sorte par créer le hors-temps, avant de parler d'une certaine histoire décalée, comme un fantasme du temps passé avec la chanson d'Arbonne ou les lions d'Al-Rassam, avant de se tourner vers la Chine avec les chevaux célestes et le fleuve céleste. Hélène Kushner joue avec le temps, beaucoup avec la Renaissance, mais aussi avec le temps mythique de féerie avec Thomas le Rimeur et le temps mythique des bretteurs avec la série Trémontaine. Valérie Mangin, autrice de bande dessinée, passe quant à elle du temps revisité du fléau des dieux au temps historique d'Alix Senator, où elle montre une exceptionnelle précision de recherche et de mise en scène au service de l'histoire et du mythe, qui vient sans doute aussi de sa formation d'archiviste et d'historienne. Enfin, Jeanne A. de Batz joue autant avec le mythe antique qu'avec la mythologie urbaine et contemporaine, avec l'histoire fantasmée d'un an dans les airs, qu'avec le mythe modernisé des aventures de Navarre, dont le dernier opus, Humaine, trop humaine, est disponible en avant-première aux Utopiales. Je vais d'abord vous poser une question à tous. On va commencer à Guy. Quelle est votre relation au mythe et au temps ?
It's a wonderfully wide and large question. And we don't have enough time to go all the way into exploring it. But I'll suggest that there is a really interesting continuum as we move from mythic time towards historical time. And the best example I can give for that is when you think about the Arthurian myths, the Celtic Arthurian myths, and how writers explore them. Some writers, like in English T.H. White or Mary Stuart, are interested in the mythic figures of Camelot and the Arthurian story. Other writers are interested in discovering who the real King Arthur might have been. They want to write books that evoke the period after Rome fell, and they want to write about real people in that time, whereas some writers want to explore the legends and the myths of the Round Table and King Arthur. One set of writers are interested in legendary time, and another set are interested in historical time. In my own books, I made a movement between the Fionnabhar tapestry, which was my exploration of legend and myth, towards books that became more engaged with examining actual periods and times of history. My own interests moved from the legendary towards the historical. And I think, in an interesting way, the movement becomes from fantasy towards historical fiction while keeping a connection to the fantastic.
Ellen, what's your relationship to myth and time?
I think it's, hello. Okay, I think it's very important to make the distinction about myth, that a myth is simply a truth that we no longer believe. Because the minute you designate something a myth, it implies that it is untrue. But if it is a true myth with real foundation and with real power, because the best myths, of course, have power, it was something deeply believed by people at one time or another. So I feel that there is mythic time, which is a time that cannot be touched, but that always exists. And I also think that each generation gets the myths it deserves. And in a sense, we're all living in mythic time right now. But we pull out of the air, or out of our beliefs, or out of our nonsense, what we decide is a myth and what we decide is real.
Oui, pour moi, le mythe existe aussi, bien évidemment. Mais je ferai la différence entre le mythe, qui est pour moi effectivement une sorte de mensonge que les hommes se racontent pour donner du sens à leur vie et du sens à la terre, à la création, à l'histoire. Et le temps historique, qui est vraiment celui de la réalité, en fait. Celui qui peut être extrêmement désagréable, qui peut être un non-sens complètement absurde, et qu'il faut bien accepter comme réalité. Alors le mythe nous sert, c'est un discours concret à partir de ces temps historiques, pour donner, leur donner du sens, justement, essayer d'en sortir quelque chose de grand, finalement, et qui nous aide à vivre. Mais je ne sais pas si les hommes ont vraiment jamais cru sérieusement à leur mythe. Je crois que c'est un peu une illusion qu'on se donne volontairement, plutôt.
Ah ouais, le côté conte de fées du mythe a quand même une force extraordinaire. Lorsqu'on prend le mythe de Prométhée au hasard, mais alors complètement au hasard, qu'est-ce qu'on a comme histoire? En fait, on a la découverte du feu par l'humanité. On a l'idée de ces hommes tremblant dans les cavernes, attendant que la colère de Zeus et son mépris les condamnent à l'oubli et à la disparition. Or, pour moi, le mythe de Prométhée, outre toute la partie rébellion de l'homme qui se dresse droit contre Dieu, qui est très importante et qui est une part fondamentale de ce que je raconte dans mes livres, en plus de ça, il y a le souvenir embrumé, lointain, de ce que nous avons vécu, de ce moment extraordinaire où l'humanité terrifiée a mis de la lumière dans les ténèbres. Alors, évidemment, la façon dont elle se le raconte est totalement magnifiée, parce qu'on a toujours tendance à en rajouter un peu. Hein. Votre voyage chez la boulangère ont tendance à être beaucoup plus joli lorsque vous le racontez à votre femme que ce qui s'est passé en réalité. Mais ça a du sens. Et dans mes propres histoires, le temps et le mythe se croisent de façon indéfectible. Et avec l'histoire également. Lorsque j'ai créé le personnage du vampire Navarre, ce qui m'intéressait, c'était son éternité, son immortalité, et le fait qu'il allait traverser l'histoire, traverser le temps, traverser les mythes, jusqu'à la fin de notre propre temps. Voilà.
God, I want to, if I may, add something to the really interesting observation just made. Ellen said something I think that is really important, which is that in the modern day, the use of the word myth has become 180 degrees opposite of where it belongs and what it was. We use myth now to be something negative and diminished. We will say, that's just a myth. And we mean that's false, it's untrue, it doesn't signify. Or we will say, let's figure out the difference between Shandabat, the myth, and the reality. And we will be saying the myth is false, constructed, untrue. The reality is something other than that diminished, insignificant myth. And as people were saying, and I think it's important, the reality of myth, if I can put it that way, is that it is the underpinning historically and psychologically, of truths. It's not the false and the trivial, it's the fundamentally important through the course of time and through the course of our individual lives.
J'ai une question là pour Hélène Kushner et Guy Gabriel. La fantaisie historique, n'est-ce pas une, en quelque sorte une histoire fantasmée?
A sort of phantasmagorical story, isn't it? Something that's fantasized in itself.
Fantasized history. Yeah, well, la fantaisie historique, ça n'existait pas il y a quoi, 20 ans, 30 ans, et quand nous avons commencé avec le fantaisie historique, on disait qu'est-ce que c'est, mais ce n'est pas la fantaisie, vraiment, où sont les elfes, où sont les trucs comme ça, où est Tolkien alors? Mais c'est que pour nous, l'histoire même, à la même passion que le fantasy, car ça n'existe plus pour nous. On ne pourrait jamais trouver vraiment la vérité de l'histoire. Alors, ce n'est pas trop loin pour certains auteurs du fantasy. Je me demandais, je vous ai donné un peu le coup d'œil, qu'est-ce que vous pensez, c'est la différence entre la fantaisie et la fantaisie historique ou la fantasmisme, allez-y.
Je parlais de fantasme de l'histoire, fantasizing history.
Ok, all right, mais c'est peut-être que Guy pourrait répondre un peu mieux.
Do you want to answer? What has interested me for the last 20 years or so as a writer, because I'm old, is the idea of creating worlds and characters where the things that people believed in the past are made real in my books. I'm using myth, legend, the fantastic, to give value to the characters in the book. For example, if people in a novel inspired by the Tang Dynasty of China believe in ghosts, I will make the ghosts real. If characters in a novel about Celts and Vikings and Anglo-Saxons believe in fairies in the wood, I will put the fairies in the wood. And the reason I do that is because most historical fiction creates a slight distance between the reader and the characters in the book. We feel how foolish they were, how much more intelligent and understanding we are. They believed in fairies in the forests. We know better. I want my readers not to have that sense of feeling superior to the people of the past, to the people in the book. I want to give value to the beliefs of the characters and allow my readers a closer connection to what the way these people understood the world to be. For me, it's a strength of using elements of the fantastic in addressing issues of the past.
Valérie, mais quelque part, le passé lui-même n'est-il pas, l'histoire n'est-elle pas un mythe?
J'espère que non. Mais il y a toujours un côté mythique à l'histoire, effectivement, et pendant très longtemps, les peuples ont vu leurs origines de manière mythique. Par exemple, à Rome, il y a évidemment l'histoire de Romulus et Rémus qui fondent Rome, qui sont les enfants du dieu Mars et qui ont été élevés par une louve. Enfin, évidemment, Rome n'a jamais été fondée comme ça. Je crois que les Romains le savaient intimement, mais en même temps, c'était beaucoup plus plaisant de se donner une ascendance divine comme ça. C'était beaucoup plus flatteur pour eux. Donc toute histoire a finalement son origine dans le mythe. Mais justement, le grand élan de l'histoire et de la science devient de plus en plus scientifique et se dégage du mythe pour retrouver la réalité, même s'il reste toujours un peu présent au fond de nous. Et à ce moment-là, je pense que le mythe, qui au départ est quelque chose de très structurant, de très positif, qui peut aider un peuple à se rassembler autour d'idées et de valeurs communes, peut aussi malheureusement être utilisé par l'histoire en mauvaise part et devenir une sorte de propagande. Par exemple, moi j'ai écrit Le Dernier Troyen, qui est une transposition en science-fiction de l'Énéide de Virgile. Alors historiquement, le poète Virgile a écrit l'Énéide donc, sur la fondation de Rome pour l'empereur Auguste. Il faut savoir qu'à l'époque, Rome et Auguste sortaient d'une époque de guerre civile où les gens avaient un peu l'impression de vivre une sorte d'airain très loin de l'âge d'or mythique dont ils pouvaient rêver. Et ils espéraient qu'Auguste mette fin à cet âge d'airain et tout le monde revienne à l'âge d'or. Et évidemment, écrire une histoire mythique de la fondation de Rome, où finalement Rome a été fondée par des héros, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus flatteur et en même temps beaucoup plus optimiste que se dire que finalement cet empire romain qui naissait était le fruit d'une période extrêmement sanglante et dirigée par un homme qui, pour être clément à la fin de son règne, a quand même été extrêmement cruel au début et s'était fondé sur la guerre et le massacre. Et je pense que le mythe a cette fonction-là de propagande aussi qui revient et qui peut être quelque chose d'éventuellement extrêmement négatif.
Et là, je rejoins totalement Valérie. Lorsqu'on enseigne l'histoire de Rome aux enfants et qu'on commence par Rémus, Romulus, Mars, etc., et qu'on rajoute par-dessus Aphrodite, puisqu'elle est la mère du prince aîné qui arrive et qui va fonder Albe la Blanche, enfin tout ça, on est en pleine excuse par les Romains. C'est-à-dire, si les dieux ont fondé la dynastie, si les dieux ont présidé à la naissance de Rome, c'est bien qu'elle est destinée à régner sur l'univers. Dieu est avec nous, est une vieille histoire, et elle permet d'écraser la figure du voisin avec une belle constance. On va le retrouver dans pratiquement toutes les civilisations, ce numéro-là, où Dieu est là, qui permet au peuple qu'il soutient, d'écraser les autres.
On va même plus loin. Le romantisme nationaliste du 19e siècle, qui crée l'État-nation et qui crée le récit national, va rechercher dans des mythes une origine commune à un peuple.
Sans compter les moments où elle crée carrément le mythe.
Où elle le vole.
Quand on pique le mythe de la République romaine, quand on enseigne la République romaine comme une espèce de... Ça ne se fait plus en classe maintenant, mais il y a eu toute une partie de l'enseignement qui a joué là-dessus, où la République romaine, c'était le modèle vers lequel on devait tendre pour arriver à une démocratie parfaite. Laissez-moi rire, c'était une des plus superbes oligarchies qu'on ait pu trouver. À la limite, c'est vrai qu'on est dans la République romaine maintenant, mais est-ce qu'on y tenait tant que ça? Alors que finalement, l'empire que va bâtir Auguste va être quelque chose de plus libéral, en tout cas pour le peuple, que ne le sera jamais la République à aucun moment.
Oui, tout à fait, oui. Et c'est des phénomènes qu'on voit encore malheureusement beaucoup plus tard. Tu parlais du roman national. Et c'est vrai qu'au XIXe siècle, quand la nation française se forme, quand on essaie de transformer les enfants de Bretagne, de Lorraine ou d'ailleurs en bons citoyens français, il y a un récit comme ça qui se crée, à la fois centralisateur et nationaliste, autour de l'idée de la France, qu'on se fait de la France, qui est une France, je crois que c'est dans le petit manuel d'Ernest Lavis qui était donné à tous les collégiens de l'époque, qui a servi jusqu'aux années 50, où on disait à l'élève, tu dois aimer la France parce que Dieu l'a fait belle et l'histoire l'a fait grande. Donc on avait vraiment une vision mythifiée comme ça de la France, qui était destinée de toute éternité comme ça à être une grande nation. Et évidemment, l'idée de la colonisation qui était sous-tendue à l'époque, puisque cette grande nation avait des valeurs si universalistes, si merveilleuses, elle devait évidemment apporter sa civilisation en Afrique et ailleurs. Et ça continue encore de nos jours, tout rien n'est fini.
Et en même temps, on en a vu les conséquences. Parce que le romantisme allemand, la création du récit national allemand, a quand même donné naissance à des philosophies et au nazisme.
Oui, le point Godwin, on y est.
On y est déjà. Oui, on pense évidemment à la mythification des Aryens par les nazis qui reprend une théorie pseudo-scientifique du 19e siècle qui veut que pour les nazis, les Allemands purs, avec beaucoup de guillemets, étaient d'origine aryenne, c'est-à-dire une espèce de peuple comme ça, issu du peuple caucasien, qui était censé être ce qu'on pouvait trouver de mieux dans l'humanité, des grands blonds un peu Voilà, vous connaissez tous la caricature nazie du surhomme. Je crois que c'était. Ils voulaient retrouver cette pureté initiale aux dépens, évidemment, qui pouvait justifier leur supériorité par rapport à tous les autres peuples, censés être des sémites dégénérés, impurs et.
Mais en même temps, vous parlez de la nationalisme. Il faut regarder. On dit Finlande en français. Finlande. Ok, bien. Car il était presque une colonie de la Suède. Et puis il leur fallait et tous les intellectuels de Finlande savaient bien qu'il fallut une mythe d'origine pour être une pays indépendante. Alors, vous connaissez Elias Lönnrot, qui était un médecin qui allait dans la campagne pour trouver les mythes, les vieux chansons, les vieux poèmes des paysans finlandais. Et puis, il les a trouvés. Mais c'était par ici, par là. Et il les faisait comme artisans dans une histoire complète. C'est un peu comme Tolkien. Et enfin, il était une influence à Tolkien. Et puis, c'est vraiment à peu près parce que ça que les Finlandais pouvaient trouver leur pays même. Même à ce jour-ci.
Oui, mais il y a eu en même temps avec les EDA. On a aussi créé énormément de faux. On a créé de faux mythes, justement, dans les pays scandinaves, pour toujours ce récit national, ce nationalisme, cette création de la nation.
Et d'ailleurs, les nazis, puisqu'on parle d'eux, hein, ont énormément tenté de récupérer les manuscrits des Edda, que ce soit en Finlande ou en Islande. Il y a toute une littérature policière sur la disparition, la réapparition des Edda, c'est assez intéressant. Surtout quand on rajoute ça derrière, un thème de science-fiction assez fréquent aux alentours des années 50, qui était aller chercher le marteau de Thor, enfin, tout ce qui est de l'ordre des aventuriers de l'Arche perdue, vous voyez. C'est quand même assez curieux que cette même idéologie soit allée chercher dans le mythe, et le mythe très ancien, la justification de sa propre existence.
I want to back up just a bit to something really interesting that you've said about an Arche d'Or, a golden age of myth or legend. The idea that the world or a city was built by giants, or that in biblical times people lived 1,000 years and we are the diminished, reduced humans who follow the larger figures. That's not just about myth and legend. It's very interesting to me about our topic here, because that applies to how we think about history. What I mean is, if you think in terms of how we romanticize, soften elements of the past, if the Belle Epoque en France was a golden age, we can romanticize the way life was there. It might not have been so for a woman or a member of a minority group, but we will romanticize that. Another example that occurs to me, in France again, if you know the Colosseum in Avignon, in the Middle Ages, dans le Moyen Âge, that Colosseum was a slum. It was a ghetto within Avignon. The ruined Colosseum was packed with very badly constructed huts and hovels, really, where people lived looking up at the magnificent construction that the Romans had built there. Nobody living in the Middle Ages in Avignon, in that slum, could believe, as we believe today, that we have progressed beyond the past. The worldview at that time in the Middle Ages was that we had fallen from historically greater people in Rome who had built that Colosseum. There was no way for them to think themselves superior to the historical past. So the idea of the Golden Age isn't just about a mythic time crossing to a historical time. It also has to do with how we look back and romanticize the past. And in other points in history, it has to do with the actual diminishment of a society looking back at its predecessor. The Golden Age idea is really powerful.
And I think that that is, in fact, at the root of some of our love of historical fantasy. The question, which I have been thinking about, Sarah, of what is its appeal and why do we indulge in it, is partly, I think, that there's a great nostalgia, which Tolkien really was a part of, that our dreams used to be better. Not our lives, but our dreams. That there was a grandeur, or a mystery, or just plain simply a beauty to a mythic past, and the myths specifically of the past. So when I wrote Thomas le Rimeur, it was really out of a great love for the feelings that reading the old stories gave me. And what I wished to communicate with it was to give that feeling to you. I think it's that simple.
Jeanne de Batte, est-ce qu'on pourrait pas dire quelque part que le mythe, c'est l'archétype?
Ah, oui. Est-ce que je vais devoir développer ça? Bien sûr. Je pense que les histoires, les archétypes, nous les avons toutes déjà lues ou racontées. Mais elles nous racontent tous les jours. Tous les jours, nous allons croiser Prométhée, hein, même si c'est sous la figure du boulanger, hein, ou du forgeron. C'est mieux, forgeron. Encore que. Je pense qu'effectivement, on est dans le mythe, dans une description de l'archétype du comportement humain. Alors évidemment, le grand exemple de ça, c'est Œdipe, forcément. Et Œdipe, on va le retrouver dans absolument tous les romans de fantasy, d'une façon ou d'une autre. Je pense particulièrement au Darien de Guy Gabriel, qui a tout un trajet œdipien dans Fiona Vare. Le choix qu'il va faire de partager ou non la malédiction paternelle est un trajet oedipien. Oedipien, pas oedipien. Je suis fatiguée, moi. Et donc, oui, on est dans l'archétype, forcément déjà dans le roman, puisque nous jouons avec toutes ces histoires qui ont fait l'humanité, mais dans notre vie quotidienne.
Et sinon, est-ce que vous avez l'un ou l'autre un mythe fondateur?
La création, peut-être, que quand on est romancière,
autrice,
on est créatrice aussi. Et il y a même, en même temps, particulièrement pour les fantasistes, il y a des règles, il y a des droits, il y a des traditions. Mais sans être trop religieuse, bien ou non, pas trop déiste, j'aime penser que pour être vraiment une autrice mythique, il faut aimer sa monde, ses personnages, comme le dieu mythique nous aimions.
Au début du Mahabharata de Peter Brook, il y a l'enfant qui parle au poète Vyasa. C'est une histoire qui m'a vraiment marquée très très jeune, ça. Il parle au poète Vyasa et lui demande « Mais qu'est-ce que c'est ce livre que tu veux écrire ?» Et Vyasa lui dit « C'est l'histoire de l'humanité, c'est ton histoire. Et lorsque tu auras terminé ce livre, tu seras quelqu'un d'autre. » Voilà.
When I wrote Isabel, which I wrote in Aix-en-Provence, I began that novel. I came to France that year to write a book about the Silk Road in China. Within a few days of returning to Aix, we had lived there several times before, I was told the founding myth of the city of Marseille, Proteus and Chyptis, and the origin story of Marseille. And that gave me almost immediately, it's the only time this ever happened to me, the core of an idea for a novel. And what I wanted to do, this connects to Sarah's really interesting question, was combine the founding myth of a place with the other idea of founding myths, which is your question, which is the personal and the family story. We all have our own myths about our childhood and our family. We define our lives in terms of the stories we tell about what happened to us. My mother always liked my sister more. That's why I'm the way that I am. These are founding myths that are part of how we explain ourselves to ourselves and the world. And in that novel, I was working with the founding myth of a place and the Canadian family that are temporarily there have their family drama that has to do with the myths, the legends, the stories different people tell about their childhood. And I'm fascinated by how the idea of myth works on both the macro level and the micro, the personal level. And in that book, I tried to bridge the two. But we talk about myths in a family context too, not just in that larger one. And I think that's what Sarah was getting at.
Moi, j'ai toujours été un peu embarrassée avec le sujet du mythe fondateur parce qu'on a l'impression que voilà, le dieu arrive, crée le monde et hop, la création est finie. Ou le héros arrive, Romulus arrive et hop, Rome est créé et Rome va partir comme ça de toute éternité. Pour moi, la création, c'est un acte beaucoup plus continu, en fait. Je ne crois pas à un Big Bang initial, enfin pour moi, en tout cas, mais vraiment une création continue. Je veux dire, je suis toujours en mode création, quoi. C'est-à-dire, j'ai été créée au moment où je suis née, et je suis toujours en train d'être créée à l'heure actuelle, quoi. C'est pas, je ne suis pas dans un temps mythique, je suis dans un temps réel et continu et qui se déroule continuellement, oui.
Ton temps mythique, en fait, c'est le présent.
Exactement, oui.
Il nous reste une vingtaine de minutes, donc je me tourne vers vous, cher public, pour vous demander de nous poser des questions, de nous parler de ces mythes, les vôtres, les nôtres. Est-ce qu'il y aurait un micro ?
Est-ce qu'il y a un micro dans la salle ? Je vois une question par là.
Voilà.
Yes.
Les généraux.
Merci.
Oui, je voudrais reparler un peu sur le sujet des mythes justement fondateurs des villes. Donc vous parliez de Rome notamment avec Romulus et Rémus. J'ai appris récemment que Paris avait essayé de fonder son propre mythe à partir d'ancêtres troyens. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus?
Oui, tout à fait. Il y a un moment où, à la fin du Moyen-Âge, on cherchait, la France cherchait un peu des la nation, enfin, l'embryon de nation France qui était, en mode, qui était justement en train de se créer, se cherchait des ancêtres mythiques plus intéressants que de se dire qu'ils venaient des Gaulois vaincus par les Romains. Et donc, ils s'étaient rattachés au prince Paris, en fait, au prince troyen. Vous connaissez peut-être, j'imagine, le jugement de Paris, qui enlève Hélène et qui cause la guerre de Troie. Qui est finalement vaincu. Il y a toute une série de poètes médiévaux qui ont imaginé que Paris avait survécu à la chute de Troie et était venu en Europe et avait donc fondé Paris et était l'ancêtre mythifié de la France. Et il y a eu un autre ancêtre aussi qui est né à cette époque-là mais qui n'a pas eu beaucoup de succès, c'était Francion, qui pareil était un survivant de la guerre de Troie qui était venu fonder la France. Oui.
De même que Frank Herbert dans Dune tire le mythe de Paris et le mythe de l'Énéide jusque sur Arrakis.
Dans Dune, il choisit même une bonne famille. Les Atréides, c'est quand même quelque chose. Alors, plus que le mythe d'Œdipe. Là, on est dans les enfants d'Atrée. Et on sent tout de suite que le festin va être épouvantable.
C'est vrai que beaucoup de villes ont des origines mythiques comme ça. Elles se sont cherchées même des dynasties aristocratiques. On pense à celle des comtes de Toulouse, par exemple, qui se disent descendants de Mélusine. Et effectivement, avoir un ancêtre divin ou avoir une fée comme ancêtre, bah, c'est beaucoup plus flatteur que finalement se dire qu'on descend d'un petit seigneur local qui a réussi à battre ses voisins et à se faire une propre principauté. Quoi.
Et bien, là, ce qu'on retrouve toujours, y compris d'ailleurs dans la fondation de Rome, c'est le sang dans le mortier. Que ce soit celui de Rémus, dans les murs de Rome, que ce soit celui de cette fameuse Mélusine qui va finir par s'enfuir puisque le mari n'est pas assez intelligent pour ne pas aller la voir quand elle lui a interdit, parce qu'elle a ses règles, etc. Et donc elle ne veut pas être vue pendant qu'elle a ses règles, parce qu'elle est obligée d'avoir ses règles sous sa forme de vouivre, enfin de fée. C'est très intéressant, le sang et la fondation. C'est un des mythes fondateurs de l'humanité, c'est qu'on n'arrive pas à imaginer. Alors peut-être que c'est logique, après tout, nous naissons entre des cuisses ensanglantées, c'est vrai. Mais on n'arrive pas à imaginer une fondation de cité qui ne se passe pas dans le sang.
Une autre question ?
Bonjour. L'étymologie du mot mythe, en fait, ça vient de mutus, qui veut dire muet. Est-ce que vous auriez une explication par rapport à cette étymologie ?
J'aurais plutôt fait ça, revenir, enfin, je laisse parler à Jeanne qui connaît ça mieux que moi, mais plutôt c'était mythos, le mensonge à l'origine plutôt, non ?
Ah bah oui, oui, mais muet, non ?
Mutus, c'est bien muet en latin, mais je vois pas le rapport avec le mot mythe qui vient du grec, en fait.
C'est l'étymologie que j'ai, que j'ai vue plusieurs fois.
Alors, je crains que nous n'ayons pas la même. Donc je vais avoir du mal à répondre sur cette information qui me paraît alternative, on va dire.
Moi, je connais pas cette origine, en tout cas.
J'utilise le picoche, par exemple, hein, qui est un dictionnaire étymologique. Bon, après, voilà, s'il y a une erreur, peu importe.
Alors,
hein,
l'étymologie n'est pas une science, pour commencer. c'est au mieux une tentative de description de l'évolution des mots. Moi, ce que j'enseigne en classe, c'est que mythos... Alors, tu es en train de me dire que ça fait 18 ans que je me gourre, mais c'est le mensonge ou c'est la vérité dite autrement. L'alternative, elle aussi.
Madame de Batz est professeure de français, de grec et de latin.
Et Madame Mangin est chartiste et helléniste distinguée. Donc, a priori, je pense que, voilà, on va avoir un argument d'autorité là, sur ce coup-là.
Je pense que peut-être Madame Picoche peut l'avoir aussi, parce qu'elle est, également linguiste.
Ouais. Mais alors, bataille voilà.
Dans ce cas-là, je ne sais pas trop quoi vous répondre. C'est vraiment une étymologie que je ne connais pas du tout. Quoi.
Ouais. Voilà, c'est
pas forcément, parce que justement, le mythe, c'est quelque chose qui est figé et qui ne parle pas dans le sens où c'est des légendes. Ce sont des choses d'abord qui n'existent pas dans le monde réel. Et donc, ça ne parle pas au sens où ça n'explique pas quelque chose directement.
Alors,
je pense, moi, c'était pas une question piège, mais bon, mon idée, c'est que ce serait à interpréter. Et justement, c'est là que ça parlerait.
Alors, la définition courante du mythe, c'est que par rapport au conte de fées, le conte de fées vous donne une leçon de vie. Tu es petite, tu t'habilles en rouge, tu vas dans la forêt, tu ne parles pas au type qui te montre le raccourci. Ça, c'est le conte de fées. Le mythe, lui, raconte comment quelque chose est venu à l'existence. Que ce soit des fleurs de jasmin, des fleurs de narcisse pour l'amant d'Aphrodite, ou une cité. Ça ne signifie pas que c'est ni muet ni un mensonge, c'est une façon de raconter, de donner une version, un sens à l'existence des choses. Donc, du coup, je reste un peu couate quant à la définition que vous en donnez, puisque... typiquement, justement, ça parle de réalisme, mais pas forcément de réalité. Qu'est-ce que tu en penses, Valérie ?
Dans la première partie de cette table ronde, Guy-Gabriel Kay parlait du mythe arthurien. Et vous parlez de mythe immuable. Or, le mythe arthurien, c'est 10 siècles d'évolution du même mythe.
Et on peut dire la même chose du mythe grec.
10 siècles de réécriture du mythe.
Et on peut dire la même chose des mythes grecs. Hein. Je crois que la plupart ont eu énormément de versions, simplement parce que aussi c'était une littérature orale et que chaque conteur finalement ajoutait ses propres détails et s'est donné sa propre version. Mais par exemple, pour revenir à Cronos, puisque c'est dans le titre, Cronos, certains mythographes le voient comme le fils de Gaïa, le fils de la Terre, d'autres le voient issu directement du chaos, certains le voient marié à Ananké, la fatalité, d'autres au contraire le voient en vieillard célibataire. Donc toutes les figures comme ça mythologiques existent, une multitude de versions. Le mythe n'est pas du tout quelque chose de figé, c'est au contraire quelque chose qui s'adapte à celui qui le raconte et à celui qui l'écoute aussi.
Il y a deux versions, par exemple, de la mort d'Iphigénie. Enfin, de la disparition, on va dire, plutôt d'Iphigénie. Je rappelle qui est Iphigénie, c'est la fille d'Agamemnon. Elle doit être sacrifiée pour permettre à la flotte grecque de partir vers Troie, puisque les dieux ne sont pas favorables. Ils veulent un sacrifice. Et donc Agamemnon envoie ses messagers à son palais et à sa femme en exigeant que Iphigénie vienne pour épouser Achille. Enfin, ça, c'est la version qu'il donne à sa femme parce qu'elle a un sacré caractère, Clytemnestre. Il pense qu'elle va dire non si on lui donne la vraie raison. Et d'ailleurs, il a raison de le penser. Donc, on envoie Iphigénie au sacrifice. Et là, soit Iphigénie meurt égorgée sur l'autel sous les yeux de son soi-disant futur époux Achille. Et c'est quand même une version qui ne fait pas très jolie dans l'historique d'Agamemnon. Soit au dernier moment, la déesse Artémis, protectrice des vierges, la remplace par une biche blanche et l'envoie devenir prêtresse à Éphèse, où elle retrouvera Oreste. J'ai toujours pensé que la vraie version, c'était la première, et que la seconde était un affadissement destiné au peuple scandalisé par ce que faisait Agamemnon.
Et quand on parle de temps du mythe et donc de temps oral, ce sont les mythes et les histoires étaient quelque chose qu'on ne pouvait pas écrire parce que justement ils étaient en perpétuelle création, en perpétuelle recréation, réinterprétation.
Je voulais rebondir sur autre chose. Alors, je crois que c'est Hélène Kushner qui l'avait dit tout à l'heure sur le fait que les mythes étaient en fait considérés vraiment comme, notamment dans les temps les plus anciens, comme quelque chose de vrai, d'acquis. Je me disais qu'à l'époque déjà il y avait des scientifiques, des gens avec une pensée rationnelle. Est-ce que justement, du coup, il n'y avait pas quand même des gros doutes sur la véracité de ces mythes et on va dire des gens assez perplexes, assez dubitatifs? Au niveau des mythes historiques.
Ok, je vais parler en anglais pour ne pas être méconnu, mais
mal compris.
Oui. Ok, c'est que I think that everyone who writes or hopefully reads fantasy understands that, as we have said, I think here more than once, myth and truth are not necessarily opposed. I think the way to respect myth and to respect fantasy is to understand, as everyone from Guy Kay to Ursula K. Le Guin has said, that myths contain a truth outside of reality. So whether or not someone really believed that, I don't know, a giant ate his own children, I think is virtually irrelevant. I also think in a multicultural world, we need also to recognize that there are people right now in various cultures who believe things that we would think of as myth or fairy tale. I know Native Americans and people up in the Arctic who will tell you stories about Raven the trickster and things like this. And they're not saying, oh, we once used to think this. They are saying, or in Haiti, wherever you like to go, there are people who tell stories that have great importance to them. There are a great many people in Western Europe who believe that a man was killed and then rose again from the dead in order to save everyone who had ever lived if they would only believe in him. That is a beautiful, beautiful story. And whether or not you believe it, you can feel the sense of truth that is connected to it. So I think we are really going down the wrong road when we worry a great deal about whether myths are true or not. I think to read really good fantasy and to write really good fantasy,
you need to believe at some very basic level that what you are saying is true emotionally, obviously. And I suspect Guy can speak to this.
I think Ellen's, again, onto a very important point. I think there's a trap in the writing about mythic figures. And I'm going to give you an example from a film about Beowulf. And the film of Beowulf, this particular one, not the animated Neil Gaiman one, it's another film. They give a backstory to explain why Grendel the monster hates Hrothgar in his castle of Heorot. The backstory, which you see at the beginning of the movie, is that young, cute Grendel the monster saw his loving father, the monster, murdered by the men of Heorot, the castle. Foully and viciously hunted down and murdered, and the young, cute monster saw this happen and ended up understandably hating the men of that castle. I'll sit here and tell you it is all wrong to approach myth and legend that way. My point is that when we bring it down to the most banal, obvious child scarred by an experience, we are getting away from the world of myth and legend, where in that time, a castle with torches in the middle of darkness and danger and evil, where human beings were frightened and encroached upon by forces they did not understand, is the essence of that Beowulf story. The minute you make it easily understandable that small child saw a terrible thing, therefore he hates these people, you lose the power of the myth. Amen. There is a quote from an English theorist, Walter Bagehot, who said, "Daylight is the one thing we must not let in upon magic." The minute we start thinking about myth, legend, magic, the supernatural, in terms of shining a light, of simplifying logical daylight upon it, we strip it of what makes it valuable and interesting to us. This is a problem for me with a great deal of fantasy, in fact. Mm-hmm. It's all about reducing the power of magic and myth and the supernatural to formulas, if you will, to dice rolls that give it a clarity that the truly powerful myths and legends should not have on that legend. They speak to us, as Ellen was suggesting, on a psychological, internalized level of truth, not on an explained, clarified, daylight shed level of truth. We need to respect that underlying element of myth and legend, not come down on it with random clarification, if I can put it that way.
As a fantasy writer, I'm often asked in interview questions, what are the myths of our time? And I want to scream, because to me, a myth only develops over time. You don't sit down and make up a myth, n'est-ce pas? A myth is something that is polished by time and by human belief. But I would argue, because of what Guy just said, that one of the great myths of our time is that everything can be explained.
Yes.
Drives me crazy. American television, particularly, and film also, has created this aesthetic of bad art where someone does something terrible because something terrible happened to them when they were a child. Yep. WTF, as they say on the internet, chez moi. It just drives me crazy because it is lies, lies, lies. Nobody is that simple. And so, I guess that is the great myth of our time.
Oui, je pensais, enfin, cette histoire, est-ce que les Grecs croyaient à leur mythe ? Bon, c'est toujours une grande question, de toute façon. Mais c'est assez amusant de voir qu'à la fin de l'Antiquité, au moment où les Grecs commencent à ne plus croire à leur mythe, il y a un mouvement qui s'appelle évéméristes, par exemple, qui se développe, qui est une tentative d'explication historique des grandes figures mythologiques, où on imagine que Zeus n'était pas le roi des dieux, mais un grand roi qui existait il y a très très longtemps et qui est devenu une figure mythique. Et au moment où ils arrêtent de croire, comme de toute façon de croire à ces mythes-là, c'est que le christianisme se développe en Grèce, en fait. Donc ils remplacent un peu leur mythologie et leur mythe d'origine par la mythologie chrétienne, entre guillemets. En fait, c'est assez rare qu'un peuple perde toute mythologie et ne la remplace pas. En général, enfin, souvent, pour ce que je connais de l'histoire, chaque mythologie qui disparaît, qui s'affaiblit, est remplacée par une autre, en fait. Je ne vois pas comme ça d'époque sans mythologie, quel que soit son niveau scientifique, en fait. Je ne sais pas, à notre époque, on peut penser, par exemple, même si on n'y croit pas, même si on n'a pas la foi en eux, les super-héros américains, par exemple, c'est le développement d'une mythologie contemporaine. Évidemment, ce n'est pas une histoire de foi, là, mais c'est quand même des super-héros, c'est quand même du mythe, quelque part. C'est quand même le développement d'un univers mythique.
Alors, moi, je voudrais ajouter un truc, là, sur la rationalité, le mythe. Comment est-ce qu'on peut faire pour, en étant rationnel comme une baraque à frites, on peut, à côté de ça, voir le mythe ? Je n'ai pas la moindre once de religion, personnellement. Je ne saurais même pas penser le surnaturel comme potentiel. Il faudrait me le démontrer par A plus B. Et même comme ça, je crois que je n'y croirais pas une seconde. Mais pour moi, le temps dévore vraiment ses enfants. Et il n'a jamais cessé de le faire. Donc, lorsqu'on me raconte l'histoire de Chronos, je n'entends pas forcément l'histoire d'un dieu. J'entends l'histoire d'une vérité. J'entends une vérité sur l'humanité, à savoir que nous ne pourrons pas tuer le temps. On pourra tout juste l'émasculer en l'enfermant dans des horloges, mais il nous aura la fin, quoi qu'il arrive.
Une dernière question. Il nous reste 5 minutes.
Oui, bonjour. Une idée que j'ai entendue dans ce que vous avez dit, mais pas vraiment explicitée, est le fait que globalement, nous sommes des êtres humains, nous racontons des histoires. Et les mythes peuvent quelque part être des histoires qui nous permettent d'expliquer, même si ce n'est pas tout à fait une possibilité, ce que nous sommes, d'où nous venons, ce qui s'est passé,
où
on va, ce genre de choses. Voilà. Et je me demandais quelque part s'il n'y avait pas une sorte d'incompatibilité, non pas entre le mythe et la vérité, mais d'une part, mais l'histoire et la réalité objective.
En fait, est-ce que la réalité objective serait pas un mythe elle-même ? Voilà, c'est ça que tu es en train de dire. Et je suis complètement d'accord avec toi, il n'y a pas de réalité objective, il n'y a que des réalités mythiques. Je suis vraiment désolée, Hélène, mais la réalité mythique, nous la voyons se succéder sur les écrans américains depuis un certain temps. La façon dont on a... J'ai vu passer un truc hallucinant. Les victimes du tueur de masse à Las Vegas sont actuellement harcelées par des gens qui sont persuadés que c'est un montage, que c'est faux, qu'il n'y a jamais eu de tueur de masse à Las Vegas et que ce sont des acteurs. Là, on est dans une espèce de mythologie américaine de « on nous ment, tout le monde nous ment, personne ne nous dit la vérité », au point qu'ils en sont à même nier, pas le mythe, mais le réel qui se passe sous leur nez. Alors, à partir de là, je ne sais plus ce qu'on peut faire entre mythe et réalité, fake news, alternative. Donc, la réalité objective, ça ne peut pas exister. Si j'essaye de prouver qu'on est allé sur la Lune, je vais avoir finalement énormément de mal à cause de cette façon de distordre la réalité objective. Voilà.
Et de toute façon, les historiens n'ont jamais été objectifs.
De toute façon, en tant qu'historien, on est quand même le produit de notre époque et de notre passé personnel. Donc de toute façon, aussi neutre qu'on essaie d'être, on a quand même toujours une vision des événements et on les réinterprète toujours au vu de ce que nous, on en sait finalement. L'objectivité, effectivement, c'est quelque chose vers lequel on doit tendre, mais c'est sûr qu'on ne l'atteindra jamais, de toute façon.
Oui, on parle plutôt d'objectivation que d'objectivité. Oui. Eh ben voilà, ce sera donc le mot de la fin. La réalité objective.
Quelle réalité, papa ?
Elle n'existe pas. Merci à tous. Merci Guy Gabriel Kay, Jana Debats, Valérie Mangin et Hélène Kushner. Bonne soirée.